Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un projet parental ou du retard dans le cycle menstruel et un test qui confirme l'arrivée prochaine d'un enfant. Et puis lors d'une consultation ou au cours d'une échographie, les futurs parents apprennent que ce n'est pas un, mais deux ou trois bébés qu'ils vont accueillir dans quelques mois. Apprendre que l'on attend des jumeaux, cela peut constituer une heureuse surprise, mais parfois aussi provoquer un choc qu'il va falloir apprendre à assimiler et transformer. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler du suivi de ces grossesses gémellaires et des risques associés pour la mère comme pour les bébés. Comprendre ce qui distingue les différents types de grossesses multiples, expliquer ce que cela peut impliquer pour le développement du fœtus, pointer quelles sont les complications les plus fréquentes pour la santé de la future maman et dans quelle mesure un suivi plus intense s'avère nécessaire. 2, 3 bébés ou plus, c'est notre sujet du jour dans Priorité Santé. Bien sûr, on répondra aux questions que vous nous avez posées sur la page Facebook de l'émission ou à notre numéro 33 84 22 75 75. Attendre et mettre au monde au moins 2 bébés, les grossesses multiples dans les studios de RFI, on vous retrouve. Docteur Claire Coleman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne au service d'obstétrique et de médecine fœtale à l'hôpital Necker Enfants Malades, également responsable de l'unité de suivi des grossesses monocoriales. Au téléphone avec nous, Isabelle Sudre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée nationale au sein de la Fédération Jumeaux et Plus. Isabelle Sud, vous êtes également la mère de 4 garçons, dont les 2 derniers sont jumeaux. Tout à l'heure, nous serons en ligne du Niger avec le docteur Madeleine Garba, gynécologue obstétricienne à la maternité Issaka Gazobi de Niamey. Docteur Garba qui enseigne également à la Fac des sciences de la santé de Niamey. En fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Alors, dans Priorité santé, docteur Coleman, quand on utilise un mot complexe, on l'explique d'emblée. Pour commencer, je viens de vous présenter comme responsable de l'unité de suivi des grossesses monocoriales. Monocoriales, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que les bébés, qu'il y en ait 2 ou 3, partagent le même placenta.
Alors, ça fait partie de tout ce vocabulaire hein, que les parents de jumeaux découvrent souvent lors de cette échographie. On va leur expliquer ce qui se passe, on va peut-être utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas. On fait bien attention justement à ce moment-là, docteur Coleman, d'employer des mots qui sont à la portée de tout le monde.
Oui, bien sûr, il faut pouvoir expliquer parce que les parents ont besoin de comprendre et c'est très important de pouvoir adapter le discours pour que les informations soient claires et que le suivi puisse se faire correctement.
Parce que d'emblée, il y a différents types de grossesses multiples, ce vocabulaire mais qui recouvre bien une réalité physique et médicale et ses caractéristiques. On disait 1 ou 2 placentas. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, bien évidemment, le nombre d'embryons, le nombre de poches. Tout ça, c'est très important pour la suite.
Oui, c'est très important de pouvoir identifier, évidemment, combien il y a d'embryons, mais aussi combien il y a de placentas, parce que le suivi ne va pas du tout être le même en fonction si les fœtus partagent le même placenta ou ne partagent pas le même placenta.
Il y a également les mots du langage courant. On a un auditeur, Moufaridji de Bukavu, RDC, qui demande quelle est la différence entre les vrais et les faux jumeaux. Là, c'est le langage de tous les jours. Vous utilisez, vous, pas tout à fait les mêmes mots.
Alors, pas tout à fait. Souvent, les parents sont très intéressés de savoir si c'est des vrais ou des faux jumeaux. En fait, nous, la réalité des choses, c'est pas vrai ou faux jumeaux. On peut être vrai jumeau et partager le même... Enfin, on partage le même placenta quand on est vrai jumeau, mais on peut être aussi vrai jumeau et ne pas avoir le même placenta et avoir 2 placentas. Et pour nous, médicalement, c'est ça qui est important. C'est pas le phénomène vrai ou faux.
Mais les jumeaux qui se ressemblent à l'identique, ce sont les vrais jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il est fort probable, quand les parents nous demandent, mais est-ce que vous savez, alors s'il y a un seul placenta, on sait que c'est des vrais jumeaux, mais s'il y a deux placentas, souvent les parents nous disent, est-ce que vous savez, c'est des vrais, c'est des faux? Et effectivement, on a tendance à dire, non, on ne peut pas savoir, nous, à l'avance, vous saurez peut-être après, et s'ils se ressemblent vraiment, probablement que s'en sont.
Un autre auditeur du Congo, hein, Kinshasa Emmanuel, je suis le père de jumeaux, un garçon, une fille. Pourriez-vous m'expliquer ce qui fait, dans ce phénomène de jumeaux, qu'on puisse avoir des bébés de deux sexes différents?
Alors là, au moins, on est sûr que c'est pas des vrais jumeaux, hein, puisque c'est deux sexes différents. Et donc, ce phénomène, c'est simplement qu'il y a deux œufs qui sont implantés, deux œufs différents, donc en fait, deux bébés différents, mais qui se sont implantés au même moment.
Pour bien comprendre, si on résume, plus les bébés à naître partagent d'éléments du corps de la maman en commun, plus ça va être compliqué pour la suite, ou c'est pas forcé?
C'est plus il va y avoir de partage entre les deux bébés, que ce soit effectivement placenta, voire même poche, voire même parfois des divisions qui sont plus tardives, hein, ce qu'on appelle sur les siamois, hein, communément, mais là c'est des complications bien plus spécifiques. Mais effectivement, plus ça va partager et plus il va y avoir de risques de complications.
Est-ce que l'on sait, bien sûr, en dehors des conséquences du traitement de l'infertilité, docteur Claire Coleman, pourquoi des parents conçoivent des jumeaux plutôt qu'un seul bébé? Pourquoi?
Alors, il y a probablement des facteurs génétiques, hein, ça c'est certain. Après, pourquoi toute la physiologie n'est pas complètement expliquée, hein. On a effectivement des familles où on va, de façon récurrente, faire des grossesses multiples, et puis et d'autres moins. Il y a probablement des facteurs environnementaux aussi. Il y a l'âge maternel qui joue aussi. Voilà, c'est une combinaison de tout ça qui fait que, parfois, on a plus souvent des grossesses multiples.
Alors, on va revenir sur les risques tout à l'heure, ces fameuses complications, et surtout les moyens de les prévenir. Pour revenir à l'annonce, c'est à quel terme en général que ça se passe, que les parents qui avaient prévu un berceau vont devoir multiplier les choses?
Alors là, la première échographie, en principe, a lieu au troisième mois de grossesse. Donc, en règle générale, c'est à cette occasion qu'on découvre une grossesse multiple. Ça peut être parfois un petit peu plus tôt, hein, quand les patientes consultent pour une raison ou une autre et qu'elles bénéficient d'une échographie. Mais voilà, en règle générale, c'est au troisième mois. En tout cas, c'est là qu'on spécifie combien il y a de fœtus, combien il y a de placenta, et puis qu'on donne un petit peu le programme de suivi pour ces patientes, les risques, la surveillance. Et c'est vrai que des fois, cette annonce est toujours un peu surprenante dans un sens ou dans un autre pour les couples.
Et il voit quoi exactement l'échographe qui lui permet de dire il y a plus qu'un seul fœtus? Il va y avoir vraiment d'une manière très visible des éléments qui vont lui permettre de tirer ses conclusions, ou des fois, à la limite, ça peut passer à la première échographie et n'être confirmé qu'à la seconde ou la troisième?
Alors, nul n'est parfait, donc ça peut hélas arriver. En principe, ça fait partie, hein, du travail qu'on doit faire, que l'échographiste doit faire au décours de la première échographie. C'est la visualisation du nombre d'embryons. Et en principe, on voit, hein, on voit le nombre de fœtus, on voit avec l'activité cardiaque, savoir si ça se développe bien. Et il faut qu'on repère, effectivement, on a des critères de repère à l'échographie pour savoir si c'est un placenta ou plusieurs placentas.
Dans le test sanguin, aucun élément ne permettra de le dire?
Dans le test sanguin, non.
On vous retrouve en ligne, Isabelle Sudre, on vous a dit bonjour tout à l'heure et on le refait tout de suite. Cette annonce, l'entrée dans le monde de la parentalité multiple, vous en souvenez, vous gardez le souvenir? Comment ça s'est passé pour vous?
Oui, ça, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Alors pour moi, ça a été, je dirais que je suis vraiment un cas atypique, mais pour moi, ça a été un grand bonheur et un grand éclat de rire, à tel point que mon médecin, vous l'avez dit, hein, mes jumeaux sont arrivés en numéro 3 et 4, donc le même obstétricien m'avait déjà suivi pour mes deux premières grossesses. Et sur le moment, il s'est demandé si j'allais bien. Il m'a répété trois fois. Je riais tellement à l'annonce de cette grossesse gémellaire qu'il s'est dit, c'est pas possible, elle a pas bien compris, elle va pas bien. Et du coup, il s'est employé à me dépeindre un tableau assez dur de tous les risques que par ailleurs je connaissais. Mais je dirais que moi, dans un premier temps, je l'ai vraiment accueilli comme une bonne nouvelle, et c'est resté une très bonne nouvelle. Je dirais que 48 heures après, je suis un petit peu redescendue sur terre, et là, j'ai pris toute la mesure des risques de la grossesse, qui me sont un peu tombés là, pour le coup, le poids m'est un peu tombé sur les épaules. Mais c'est resté une excellente nouvelle, et 15 ans après, ça lit toujours, quoi.
Et le papa, comment il a réagi, lui?
Comme moi.
Euphorique, les deux euphoriques.
Voilà, c'est ça. Il m'a juste dit, bon, bah écoute, on va changer de voiture. Hein. Et ça, c'est la réaction globale qu'on voit chez les papas dans les familles que nous accompagnons chez Jumeaux et Plus.
Alors, il y a bien sûr ces considérations physiques. Après, quand on va parler des risques et des complications, docteur Claire Coleman, justement, sur l'acceptation, est-ce que vous avez, vous, cerné avec l'expérience qui faisait que dans, on va dire, telle famille, eh bien, c'est un éclat de rire, c'est le bonheur, etc. Et puis, pour d'autres, c'est une forme de... Ben, c'est un coup dur, quand même, cette annonce de, voilà, deux bébés et non pas un.
Alors, c'est difficile de dire qu'il y a des stéréotypes de réaction. Hein. C'est effectivement très dépendant du vécu de chacun, de son vécu, de ses précédentes grossesses. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la quatrième? Dans quel contexte on vit? Comment on peut accueillir ça? C'est sûr que c'est très variable et parfois, je suis encore surprise. On peut pas s'attendre à la réaction des couples, certains couples qui réagissent très très bien alors qu'on pensait que ça allait peut-être être difficile et d'autres qui réagissent mal, c'est très variable.
Isabelle Sudre, après l'annonce, le déroulement de la grossesse, on l'a compris, vous étiez déjà maman. Voilà qu'arrive numéro 3 et numéro 4, j'imagine qu'on est charmant prénom, mais le risque là, il y a quand même un risque accentué quand on est troisième et quatrième bébé, bien évidemment, c'est la fatigue.
Oui, alors... Ça, c'est certain. Alors, c'est pour le coup, ce sont les risques de la grossesse multiple qui nous tombent vite dessus et cette conscience qui nous tombe vite dessus. Pour revenir un petit peu sur votre question précédente, c'est vrai que pour toutes les familles que nous accompagnons, puisque Jumeaux et Plus accompagnent des familles depuis 40 ans, globalement, nous, ce qu'on constate, c'est que l'annonce de la grossesse multiple est quand même un cataclysme et que l'accompagnement est vraiment nécessaire pour absorber cette annonce et puis et l'envisager positivement et pouvoir continuer dans de bonnes conditions. La fatigue, c'est certain, c'est pas une grossesse comme les autres. Et puis, alors, les médecins le disent beaucoup, reposez-vous, on pense beaucoup à la prévention de la prématurité. C'est ce que font aussi les associations Jumeaux et Plus. Quand nous avons les futures mamans en face de nous, par téléphone ou autre, on les sensibilise énormément à la nécessité de se reposer, de réduire l'activité, parce que le risque est réel. Et je vous cache pas que moi, j'ai été hospitalisée à 26 semaines d'aménorrhée. J'avais un enfant de 4 ans et demi et un de 18 mois à la maison. Mmh. C'est pas forcément simple à vivre, ça c'est sûr.
Au niveau de la séparation, mais en même temps, c'est pas forcément simple à vivre quand on est à la maison avec un bébé de 18 mois, j'imagine, qui vient d'apprendre à marcher il y a quelques mois seulement et qui est encore dans la phase de l'exploration où on doit être derrière lui à chaque instant.
C'est ça. Donc là, bon, il y a tout un, je dirais, un tas de, je vais dire, de petites techniques hein, qu'on réfléchit avec les parents, etc. Mais on apprend très vite à lire un petit livre allongé, à éviter de porter le petit et puis c'est lui qui vous grimpe sur les genoux et c'est pas vous qui le soulevez. Mmh. Vous voyez, c'est tout un tas de petites choses comme ça, mais qui sont importantes au quotidien pour réduire les risques et éviter d'accentuer la fatigue.
Alors on pense bien sûr à cette prématurité comme risque, docteur Coleman, que vous avez évoqué tout à l'heure. On va pas faire une liste des problèmes éventuels, mais quand même, quand vous expliquez aux parents pourquoi justement il faut se protéger, pourquoi il faut éviter trop de fatigue, vous leur présentez quoi comme risque tout d'abord ?
Ben, le risque principal, effectivement, c'est la prématurité. Hein. C'est quelque chose de mécanique. Hein. On a plusieurs bébés dans le ventre au lieu d'en avoir qu'un seul. Et effectivement, chaque femme n'a pas la même capacité à pouvoir mener jusqu'à terme, ne pas avoir de contraction et avoir un col de l'utérus qui tienne jusqu'à un accouchement à terme. Donc, c'est sûr que c'est la première chose qu'on présente. Et on a tendance à rapidement leur dire, anticiper, de dire, voilà, on va vous arrêter plus tôt. Il va falloir, en tout cas, physiquement, pouvoir réduire l'activité et ça fait partie de la priorité dans l'information qu'on donne à ces patients.
On disait un certain nombre de parents pour qui c'est un coup dur. Dans ce cas-là, il y a une consultation en psy. Vous orientez vers les associations aussi, c'est quelque chose que vous faites en milieu hospitalier?
Oui, tout à fait. Ben, nous, justement, on travaille beaucoup avec Jumeaux et Plus. Hein, donc, on tient des réunions d'information, on a des plaquettes, on leur donne les contacts. À Necker, on est privilégié, on a aussi la chance d'avoir une psychologue qui peut rencontrer les couples sur les grossesses multiples, soit compliquées, soit même qui ne sont pas compliquées médicalement, mais qui ont besoin d'un soutien. Et je pense, oui, que c'est quelque chose d'important, parce que, quoi qu'il en soit, psychologiquement, ça va être une épreuve.
Isabelle Sudre, cette écoute, c'est essentiel?
Oh oui, oui, oui. Le soutien à la parentalité, là... trouve toute sa place. Vous savez, on le disait tout à l'heure, c'est un cataclysme et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément exprimer dans sa famille. Il y a énormément de tabous, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, qui peuvent être mal perçues. On peut être à la fois très heureux d'une grossesse et puis en même temps avoir beaucoup d'angoisse face au fait qu'il y a deux bébés. Et puis en fait, on n'en voulait pas forcément deux. Toutes ces choses-là, c'est compliqué à exprimer en famille. Avec les bénévoles des associations Jumeaux et Plus, on peut tout dire. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes tous parents de jumeaux. Nous avons tous partager ces moments-là, c'est, je dirais, ces sentiments contradictoires. Donc oui, le soutien à la parentalité est important. Alors, comme le disait le docteur Coleman, les réunions en maternité, les permanences téléphoniques, les groupes de parole, les réunions d'information, les sorties en famille aussi pour associer les grands frères, grandes sœurs, parce que c'est important de préparer la fratrie et toute la famille à l'arrivée de ces bébés. Voilà, ce sont vraiment des moments. Et puis, permettre aux parents et d'accepter cette idée-là, de s'organiser avec, de se dire que ça va être possible, et puis de préparer l'arrivée des bébés, parce que plus on est préparé, plus derrière ça paraîtra facile.
Parce que cette question d'organisation, elle va aussi être essentielle pour ne pas avoir le coup d'après une fois qu'on va rentrer à la maison.
C'est ça. Il faut avoir anticipé. Même si, bien évidemment, on va se réorganiser sans arrêt, tout ce qu'on aura prévu ne va pas tenir, on va sans arrêt re-réfléchir cette organisation. Mais c'est pas grave. C'est important déjà d'avoir pu, pendant plusieurs semaines, parler, y réfléchir, avoir des pistes d'organisation, parce que ça permet de structurer. Et puis, globalement, on est prêt. Et puis, les associations font également de la mise à disposition de matériel de puériculture.
Donc, vous voyez, ça permet... vrai que parce qu'il y a le budget aussi qui en prend un coup, et pour certaines familles, c'est pas du tout évident.
C'est ça. Donc Jumeaux et Plus a aussi cette action-là, en soutien avec les caisses d'allocation. Nous sommes soutenus par les caisses d'allocation familiales, de manière à mettre à disposition le matériel que les associations auront acheté. Alors, je pense aux poussettes doubles, aux sièges auto premier âge, aux transats, enfin tout ce qui peut servir, tout ce dont on a besoin, multiplié par deux ou par trois, de manière à ce que les familles n'aient pas à faire cet investissement lourd. Donc c'est extrêmement important de se mettre en relation avec les associations pour vraiment préparer cette grande aventure, parce que c'est une grande aventure tant d'un point de vue médical que d'un point de vue humain.
Et toutes ces informations à votre association, on les retrouve sur le site Jumeaux et Plus. On va mettre bien sûr l'adresse mail sur la page de l'émission pour les auditeurs et auditrices surtout qui sont intéressés. Merci beaucoup Isabelle Sud d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été en ligne avec nous. Très bonne journée. Et vous restez avec nous en studio, docteur Claire Coleman. On va donner la parole tout de suite à une auditrice de Priorité Santé.
Allô ? Priorité Santé. Sur RFI.
Et on va voyager avec vous, Bibiche. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis pas familière, je le dis aux auditeurs, c'est bien votre prénom, Bibiche. Vous êtes congolaise, voilà, et c'est absolument charmant. Vous êtes congolaise et vous êtes installée au Kosovo, à Pristina.
Je ne suis pas installée au Kosovo, je travaille au Kosovo.
Oui, avant de retourner ailleurs, plus tard peut-être, mais en tout cas, vous y êtes en ce moment et vous êtes la maman de triplé, c'est bien cela?
Effectivement, je suis la maman de triplé, deux garçons et une fille, de 6 ans.
6 ans. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour commencer. Comment est-ce que ça s'est passé, l'annonce que ce ne serait pas un bébé, mais 3?
Ça s'est passé, c'était vers 2 mois. C'est arrivé vers 2 mois. On a procédé à une échographie pour être sûr, enfin, pour savoir exactement si j'étais, pour confirmer la grossesse. Et là, le médecin m'a annoncé qu'apparemment, ils sont à 4. Voilà. Et il m'a demandé de revenir après 3 semaines pour confirmer ce que j'ai fait. Donc, j'ai appris qu'ils étaient à 3 vers 3 mois de grossesse, presque 3 mois.
Alors, j'imagine 4, c'était un choc. On vous dit ensuite 3. Comment vous réagissez? Et votre conjoint, comment il réagit à ce moment-là?
Nous étions tous les deux surpris, heureux, mais un peu angoissés parce que 3 ans auparavant, nous avions perdu des jumelles à l'accouchement. Donc, mais nous étions heureux. Mais angoissée en même temps.
Et j'imagine qu'à ce moment-là, vous comptez accoucher dans les circonstances les plus sécurisées. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
En ce moment-là, notre idée, c'était d'aller quelque part en Europe, en Italie, comme mon mari est italien. Donc, nous avons pensé directement à voyager. Le médecin m'a déconseillé. Il m'a dit non, c'est une grossesse à risque. Je vous déconseille de voyager. Essayez de trouver une clinique spécialisée dans les grossesses à risque multiples. C'est mieux d'éviter de voyager. Le vol et tout, ça n'aurait pas été... C'est pas une bonne idée.
Et dans votre famille, il y avait eu d'autres jumeaux? Il y a eu d'autres expériences? Ou du côté de votre époux?
Du côté de mon époux, il a des cousins, des jumeaux. Des cousins, des jumeaux. Et puis de mon côté, nous avons plus de 10 paires de jumeaux. Et ma mère, après moi, elle a eu une grossesse gémellaire qui s'est arrêtée vers 5 ou 6 mois.
Quand vous avez perdu ces bébés, je ne sais pas si c'est vraiment délicat d'en parler, à la naissance, on vous a donné des explications pourquoi ça s'était mal passé?
Non, c'est arrivé au Congo, à Kinshasa, on ne m'a pas donné d'explication, on m'a dit ça arrive, il y a eu une complication à la fin, mais on ne m'a pas donné d'explication concrète par rapport à ce qui s'est passé, mais... Voilà.
Est-ce que ça a été un facteur d'angoisse supplémentaire par rapport au suivi de la grossesse suivante avec ces trois bébés, on va le dire, qui sont en pleine forme, aujourd'hui qui ont 6 ans? Vous nous avez fait la gentillesse de nous envoyer une photo qui sont absolument adorables. Oui. Donc ces bébés vont très bien, vous aussi vous allez très bien. Aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez? Tout à l'heure, on avait Isabelle Sudre, qui est militante associative et maman, qui parlait d'une aventure. Comment vous regardez cette aventure?
C'est une aventure, je sais, terrifiante en même temps et unique. Parce que parfois, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un rêve d'avoir 3 bébés. Partout où je passe, tout le monde me pose la question, c'est des jumeaux, c'est des triplés. Partout où je passe, je suis sujet à la curiosité de tous ceux qui me voient avec les triplés. À la maison, c'est la débandade. Nous avons, la maison semble je sais pas, c'est comme
un chantier, je sais pas. Oui.
Voilà, oui. Oui, mais c'est fantastique, en même temps c'est angoissant, c'est fatigant.
Un jardin d'enfants, et ce regard des autres, cette curiosité, vous en pensez quoi à la fin? Ça vous agace ou finalement vous vivez avec, c'est comme ça? Ou à l'inverse, carrément, c'est une fierté?
C'est une fierté, ça m'amuse. Le regard des autres m'amuse, mais c'est une fierté. Ça m'agace pas du tout. Et parce que je pense que j'aurais fait la même chose.
Mmh. Et entre eux, les enfants, ça se passe comment? Ils sont complètement complices ou ils sont très différents et ils mènent leur vie chacun de leur côté?
Ils sont très différents en termes de caractère. En même temps, ils sont attachés, mais en même temps, ils se disputent autant, ils sont toujours en désaccord. Mais lorsque un se déplace, n'est pas présent, les deux autres n'arrivent pas. Ils demandent, mais où il est? Pourquoi il est parti? Parfois, il y a un qui est malade, on l'amène à l'hôpital. Les deux autres demandent, mais quand est-ce qu'il va rentrer? Pourquoi tu l'as amené, nanana. Et l'autre aussi de son côté à l'hôpital, non, je vais rentrer, je vais voir les deux. Mais quand lorsqu'ils sont ensemble, c'est tout le temps des disputes, des bagarres. Ils sont jamais d'accord. Mais ils veulent pas être séparés en même temps.
Est-ce que vous avez encore aujourd'hui, donc 6 ans après, des questions sur ces naissances multiples, des points que vous aimeriez éclaircir, des choses qui vous semblent assez encore obscures à vos yeux, ou aujourd'hui c'est clair et vous êtes passé à autre chose complètement?
Non, j'ai pas de questions parce que je me suis renseignée pendant la grossesse. Mmh. Nous sommes renseignées beaucoup. Et donc, je pense que je suis devenue spécialiste de grossesse.
En tout cas, vous avez une sacrée expérience. Ouais. Trois enfants, c'est bon, ça y est, le compte est bon?
Oui, le compte est bon, le compte est bon.
Vous êtes rassasiée.
Je suis rassasiée, j'ai peur. Je me dis, peut-être si j'essaie, je peux en avoir deux autres ou trois. Donc, c'est mieux de ne pas essayer parce que là... Ça va être trop.
Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour ce témoignage, Bibi. Cette excellente journée à Pristina. Docteur Claire Coleman, cet échange, il confirme ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y a des familles à jumeaux?
Il y a des familles à jumeaux, oui, tout à fait. Il y a un impact génétique certain. Et donc, on rencontre comme ça des familles où il va y avoir des grossesses multiples à toutes les générations. Et c'est assez... du coup, ils sont habitués. C'est assez... classique pour eux, ils sont pas surpris.
Alors il y a une situation. À travers ce témoignage, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Ce drame pour la première grossesse avec la perte des bébés sans trop d'explications à l'accouchement. Pourquoi y a-t-il au moment du terme davantage de risques encore, y compris au moment de la naissance? Le risque, il est vraiment tout au long de la grossesse?
il est tout au long de la grossesse et aussi à l'accouchement. L'accouchement des jumeaux, c'est compliqué. On a déjà des risques naturellement d'avoir des césariennes et d'avoir des complications. On en a deux fois plus quand on attend des jumeaux. Et on sait qu'il y a des accidents sur ces accouchements. Donc en France, il y a souvent un débat sur la césarienne ou la voie basse sur les jumeaux qui n'est pas complètement tranché. Mais c'est vrai qu'on sait qu'une voie basse, quand ça se passe très bien, c'est magnifique. Mais quand ça se complique, on peut avoir des complications graves aussi bien au niveau des enfants que de la mère. Et on peut avoir des décès en cours d'accouchement, même si toute la grossesse s'est bien passée. Donc ça reste encore des accouchements à haut risque et à prendre en charge et à médicaliser.
Surtout pas, alors on va dire déjà que hospitalisation systématique, là, c'est pas là où on va dans une maison de naissance où il n'y aura pas un service de néonatalité derrière.
Si.
Bien sûr, quand c'est possible, hein, là je parle pour le contexte européen, mais c'est vraiment quelque chose de très important à dire aux futurs parents.
Complètement. C'est fortement conseillé d'avoir une structure bien médicalisée pour un accouchement de jumeaux.
Docteur Claire Coleman, on va poursuivre cet échange avec nos auditrices tout à l'heure. On partira également pour le Niger. Tout de suite, une petite respiration musicale avec Doudouké, le Nigeria. L'interprète, c'est Simi.
First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray. That's why my heart is a bit like do do play, do do play. Cause now you I choose, oh, I am family, I am play. I sing for you and I be like do do play, do do play. Baby, now you I go pick up, oh, I am family, I am play. But tell me, oh, see, I may not give the word to you, but I give you what I have.
Simi sur RFI Priorité Santé, nous poursuivons notre échange, émission consacrée aux grossesses multiples. Avec nous toujours le docteur Claire Coleman, gynécologue, obstétricienne au service d'obstétrique et de médecine fœtale à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. On perçoit justement à quel point le suivi de la grossesse est important. Tout à l'heure, on parlait du risque de prématurité. Docteur Coleman, s'il y a également vraiment quelque chose à surveiller hein, parmi tous ces indicateurs de santé au cours de la grossesse, ça va être la tension et le risque d'hypertension.
Oui, tout à fait. On sait que dans les grossesses multiples, hein, le risque de développer une pathologie hypertensive de grossesse, qu'on appelle la pré-éclampsie, est augmenté. Hein. C'est à peu près deux fois plus de risque que dans une grossesse où il y a un seul bébé. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Hein. Après, on fait une surveillance tous les mois de ces tensions, un peu plus rapprochées sur la fin de grossesse. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et puis, on sait qu'il y a aussi un peu plus de diabète pendant ces grossesses. Donc, sur les pathologies maternelles, c'est les deux choses sur lesquelles on est un peu plus vigilant et on surveille un peu plus que sur une grossesse où il n'y a qu'un seul bébé.
Ça veut dire que quand on a déjà un contexte d'hypertension artérielle ou de diabète avant d'être enceinte de jumeaux, là ça veut dire qu'on va être à double surveillance justement pour éviter le moindre problème.
Oui, on sera du coup beaucoup plus vigilant dans ces situations-là.
Alors tout de suite, avant de répondre à une autre question d'auditrice, on va partir pour le Niger.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Et avec nous, docteur Madeleine Garba, bonjour.
Oui.
Bonjour.
Et merci encore à toute l'équipe de Priorité Santé pour m'avoir invité à cette émission.
C'est bien normal. Vous êtes gynécologue, obstétricienne à la maternité Issac Agazobi de Niamey. Docteur Madeleine Garba, bien sûr, le suivi des grossesses et peut-être aussi des grossesses multiples, c'est directement lié à l'état du système de santé. Différence, bien sûr, de possibilités entre ce qui est proposé, par exemple, en Europe et ce que vous constatez dans votre pays, le Niger. Pour avoir un petit ordre d'esprit, le pourcentage de naissance et de suivi en milieu médicalisé, hein, je dis pas en milieu hospitalier, mais en milieu médicalisé, c'est quelle proportion pour le Niger ?
Il faut dire en fait que nous n'avons pas de données prenant en compte tous les accouchements. Si on prend pour l'ensemble du pays, on a à peu près 41,65% d'accouchements assistés. Donc, ce qu'on appelle par un personnel qualifié. Par exemple, en 2019, selon les données fournies par le système d'information sanitaire, le SNIS, en 2019, il y a eu, 424 725 accouchements dans les formations sanitaires, au niveau des formations sanitaires, et avec 5873 accouchements jumellaires dans ces structures, dans ces formations sanitaires, et 388 quand même hors formation sanitaire, qui ont été par la suite déclarés jumellaires hors formation sanitaire. Et au deuxième semestre, le premier semestre 2020, c'est 3322 accouchements jumellaires dans les formations sanitaires sur l'ensemble du pays et quand même 132 hors formation sanitaire. Donc vous voyez qu'on ne peut pas de manière exhaustive dire voilà, il y a eu tant d'accouchements jumellaires, parce qu'il y a des accouchements jumellaires qui se passent hors formation sanitaire.
On disait tout à l'heure que pour le contexte français, c'était lors de l'échographie, on va dire, du troisième mois, que justement on révélait aux parents la réalité de ces deux bébés. Pour vous, ça se passe comment ? On sait très bien que les échographies, elles sont pas disponibles partout. Comment est-ce qu'on va savoir que, eh bien, il y a deux bébés ? Ça va être la sage-femme avec la petite corne qui va écouter les naissances ? Comment ça se passe ?
Mais malheureusement, le diagnostic n'est pas toujours fait au premier trimestre. Souvent, c'est avec des échographies plus tardives, au deuxième, au troisième trimestre. Et aussi, parfois, c'est même lors de l'accouchement qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a un deuxième bébé. Donc, vous voyez toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté, ou bien devant une complication, comme on l'a dit, devant une menace d'accouchement prématuré, une pré-éclampsie sévère et ou un diabète gestationnel.
On comprend bien tous ces risques. Du côté, tout à l'heure, on a pas mal insisté sur le ressenti des parents au moment de l'annonce. Là, bien sûr, on va parler de la famille élargie. C'est quoi la perception, par exemple, au Niger, quand une famille dit, les jeunes parents reviennent en disant, voilà, on va avoir deux bébés. C'est plutôt bien perçu par la famille ?
Ah oui, je crois que sur l'ensemble du pays, vraiment, là. La grossesse jumellaire est bien accueillie, c'est vraiment une bénédiction. Hein. Quand une femme attend des jumeaux, elle est adorée, vraiment. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Ça, c'est
une grande bénédiction, un grand bonheur. Et pour être beaucoup plus concrète, pour la maman, des fois peut-être que vous avez les mamans face à face, si la famille s'en réjouit, est-ce que la maman, malgré tout, elle exprime des inquiétudes parce que c'est quand même relativement rare, parce qu'une grossesse, c'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui, justement, osent vous dire « Oui, je suis contente, j'ai ces bébés, mais malgré tout, j'ai un petit peu peur. »
Ah oui, mais c'est sûr que c'est normal qu'elle ressente un peu d'appréhension, mais bon, c'est à nous, personnel de santé, de les rassurer dans le suivi et puis lors de l'accouchement, en les conseillant que l'accouchement se passe dans une structure de santé. C'est sûr qu'il peut y avoir cette appréhension, mais je veux dire que ce soit au niveau familial et au niveau du personnel de santé, le lieu de les rassurer pour que cette grossesse soit bien menée et que l'accouchement se passe bien.
à la fois les rassurer, à la fois les avertir des risques. On va prendre une auditrice en ligne, si vous le voulez bien. Elle appelle du Tchad de N'Djamena, donc un contexte assez proche du vôtre, hein, docteur Garba. C'est Judita. Bonjour, Judita.
Bonjour, la famille.
Bonjour, et racontez-nous. Racontez-nous comment
moi,
ça s'est passé.
Moi, je suis une mère de jumeaux depuis 2 ans. Mm-hmm. Lors de ma grossesse, pour ces enfants, j'avais constaté des différents phénomènes par rapport à mon premier fils. Dès que j'étais enceinte, vers le deuxième mois, j'étais gravement un peu malade dans lequel je vomissais. Quand je goûte un peu d'aliments seulement directement, je vomis. J'ai suivi cela au premier mois sans se faire, et moi-même sans bien manger ainsi, parce que je vomissais un temps. C'est ainsi le troisième mois quand un médecin m'avait consulté et il m'a fait savoir que j'avais conçu des jumeaux. Et c'est ainsi que j'ai pu faire l'échographie pour un peu savoir de plus. Et quand on avait su que c'était des jumeaux, on était fiers d'avoir ces jumeaux.
Excusez-moi, Judita, c'est à l'échographie que vous avez su que c'était des jumeaux ou le médecin s'en est douté auparavant lors d'une consultation?
Le médecin avait un peu... Nous, on avait un peu douté, quoi. C'est ainsi qu'on a pu faire de l'échographie et puis pour bien savoir de plus.
Si vous n'aviez pas attendu de jumeaux, si le médecin n'avait pas eu cette intuition, vous n'auriez pas eu d'échographie?
Non, non, non.
C'était que parce qu'il y avait un soupçon de jumeaux?
Oui, c'est ça.
Et est-ce qu'il vous a donné après des conseils particuliers pour éviter des risques, des complications?
Oui, il nous a donné quand même, puisque pour mon premier fils, j'avais fait l'échographie 6e mois encore. C'est ainsi, comme on a su que ce sont des jumeaux, et on a pu directement 5e mois, on a pu faire quand même de l'échographie pour savoir de plus. Et puis, quand j'avais 6 mois de grossesse, j'avais des enflements des pieds, quoi.
Vous avez senti d'importantes différences par rapport aux deux grossesses? De toute façon, même quand on n'attend pas des jumeaux, on dit qu'il n'y a pas deux grossesses qui se ressemblent. Mais est-ce que vous avez senti des différences? Je parlerai au niveau de la fatigue, par exemple.
Oui, je n'arrivais même pas à travailler. Et puis, si je ne travaille pas, c'est ainsi que mes pieds la sentent à celle aussi.
Et après, l'arrivée des bébés, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé?
À l'accouchement même, là, on m'avait fait le césarienne. Mais rien n'est passé quand même. J'avais pu donner les enfants.
La césarienne, elle a été décidée le jour de l'accouchement ou c'est avant le médecin qui avait dit « Judita, comme vous attendez des jumeaux, on va vous faire une césarienne, c'est plus sûr ».
Non, 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 le médecin n'avait pas prédit ça.
Ça a été fait en urgence.
Oui.
Mais les bébés se sont bien portés ensuite et aujourd'hui, ils vont bien, ces petits-enfants.
Oui, ils vont très bien maintenant.
Et ils s'appellent comment?
Il y a l'autre qui est Martin et l'autre qui est Mabane.
Eh bien, on leur dit bonjour à tous les deux, bonjour à toute la famille. Très, très bonne journée à vous, Judita. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Docteur Garba, ce qu'on entend là, c'est qu'en fait, cette échographie, elle est venue parce que il y avait justement cette gémellité pressentie par le médecin. Ça veut dire que pour beaucoup de mamans, eh bien, il va y avoir peut-être des jumeaux qui seront détectés assez tardivement dans ce contexte.
Oui, malheureusement, c'est le cas, effectivement, parce que les femmes, c'est pas toutes les femmes, mais il y a peu de femmes. En fait, ils vont faire des échographies au premier trimestre. Or, le diagnostic de chorionicité doit être fait au premier trimestre, idéalement entre 7 et 10 semaines, donc avant les 2 mois révolus, pour qu'on puisse bien affirmer effectivement est-ce qu'il y a deux sacs bien distincts. Mais c'est pas toutes les femmes, effectivement, qui ont accès à cette échographie du premier trimestre.
Un dernier message, docteur Garba, à faire passer justement aux futures mamans, aux familles qui nous écoutent. Quand on attend des jumeaux, dans votre contexte, le grand conseil, c'est quoi?
Au niveau du suivi de la grossesse, donc avec tous les éléments de la consultation prénatale, Donc déjà, bien faire sa prévention pour le paludisme, bien prendre le fer également pour que la femme vienne avec un bon taux d'hémoglobine à la naissance.
Mm-hmm.
Hein, d'accord, bien dormir sous moustiquaire pour éviter le paludisme et faire un bon suivi pour diagnostiquer une éventuelle menace d'accouchement prématuré qui peut effectivement conduire à la prématurité.
La moustiquaire, hein, c'est essentiel. On n'y pense pas forcément quand on parle des jumeaux, mais là, dans ce contexte-là, c'est absolument essentiel parce que les formes pour les nouveau-nés et les futures mamans peuvent être particulièrement, ces formes peuvent être particulièrement dangereuses. On vous remercie beaucoup, hein, docteur Garba, d'avoir été avec nous en ligne de Niamey. Docteur Claire Coleman, on arrive à la dernière partie de notre échange. On voit bien la question du contexte et du suivi, ça diffère vraiment d'une région à l'autre. Ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a eu à un certain moment une augmentation significative, hein, du nombre de jumeaux, voire de triplés. Et aujourd'hui, ça s'est stabilisé plutôt.
Oui, en fait, il y a eu une augmentation dans les années 80-90 du fait de la procréation médicalement assistée, hein, où c'était justement les débuts et qu'on essayait, pour avoir le plus de chances d'avoir une conception, de mettre plusieurs embryons, de stimuler. Et donc, on s'est retrouvé avec des grossesses multiples et du coup, un taux de grossesses multiples qui a flambé à ce moment-là. Et puis, il y a aussi l'âge maternel. Hein. L'âge maternel, on vieillit. On a maintenant des enfants un peu plus tard. Et on sait que la probabilité d'avoir une grossesse multiple est la plus élevée entre 35 et 39 ans. Ce qui fait que, avec l'âge vieillissant des mères aussi, on a eu une augmentation. Alors, au niveau de la procréation médicalement assistée, on a bien évolué sur nos pratiques médicales. Et du coup, ça se stabilise. Hein. On a moins de grossesses multiples. Donc, c'est pour ça que le taux de naissance en France s'est stabilisé là maintenant depuis une petite dizaine d'années. On est aux alentours de 1,7%.
On a parlé tout à l'heure du travail d'acceptation au moment de l'annonce, justement, de l'arrivée future des jumeaux. Est-ce qu'il y a davantage de baby blues, de dépression après la naissance chez les mamans qui ont mis au monde plusieurs bébés, ou c'est plutôt assez stable par rapport aux naissances uniques ?
Non, c'est beaucoup plus difficile. On a toujours tendance à penser que il va y avoir la grossesse qui va être compliquée, parce que nous, c'est ce qu'on voit en tant qu'obstétricien, mais en fait, c'est pas la grossesse au final qui va être le plus compliqué, c'est la suite. Parce qu'effectivement, déjà, l'avenue d'un enfant, c'est un chamboulement pour une famille, mais alors de deux enfants, la fatigue, les complications pour l'allaitement, pour la gestion matérielle, domestique, fait que tout ça entraîne des conséquences psychologiques qui sont non négligeables. Et moi, j'ai tendance à dire aux patientes que ça va être dur et c'est normal.
Et la vigilance, là aussi, elle doit être redoublée. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Accueillir plusieurs bébés en même temps, c'est d'ailleurs l'objet d'une émission qu'on fera très certainement prochainement. On vous remercie beaucoup, hein, docteur Claire Coleman, pour toutes ces précisions, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne au service d'obstétrique et de médecine fœtale de l'hôpital Necker à Paris.
Merci.
Bien manger, rester en bonne santé, tout de suite dans Priorité Santé. C'est avec vous Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. On va parler tout de suite des produits laitiers, connaître l'intérêt des différents produits. Avec d'abord ces aliments, hein. Quels sont-ils ces aliments qui se regroupent sous cette famille de produits laitiers ?
Alors, les produits laitiers, c'est une famille qui, en premier lieu, comprend différents laits qui sont issus des ruminants. Ça va être le lait de vache, le lait de chèvre, de brebis ou encore de chameau. Alors, cette famille inclut aussi d'autres aliments qui sont produits par transformation à partir du lait. Il y en a toute une famille. Alors, ça va être le lait fermenté qui est obtenu par fermentation du lait qui a été ensemencé par différents types de micro-organismes suivant le produit final qu'on veut obtenir. Ça va être, par exemple, le lait battu ou le kéfir. Ça va être les yaourts qu'à peu près tout le monde connaît, qui sont aussi des laits fermentés, mais eux qui sont réalisés uniquement avec un ensemencement par des bactéries lactiques thermophiles comme Lactobacillus ou Streptococcus thermophile. Et enfin, des fromages frais comme le petit suisse ou le fromage blanc qui sont obtenus à partir d'un long processus d'écoutage et après fermentation lactique. Et la dernière famille, c'est les fromages fermentés qui sont obtenus par coagulation avec de la présure et avec en plus des ferments lactiques. Alors là, on a trois types de fromages qu'on connaît classiquement. C'est les fromages à pâte molle, donc plutôt le camembert, ceux à pâte dure plutôt l'emmental, et puis ceux qui ont les moisissures internes, comme par exemple le roquefort. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup à la fois de faux amis et de produits plutôt, on va dire, dont le nom est un peu trompeur, qui ne sont pas des produits laitiers.
Alors justement, ces faux amis, ces aliments qui sont souvent classés à tort parmi ces produits laitiers, ce sont lesquels ?
Alors il y a deux choses qu'il faut différencier. D'abord, ceux qui sont issus, où il y a du lait dedans, j'allais dire plutôt, mais qui ne sont pas classés dans les produits laitiers en termes nutritionnels. Mais ça va être le beurre, la crème fraîche, les crèmes de dessert ou encore de la glace. Le beurre et la crème fraîche en nutrition sont classés dans la famille des matières grasses.
Alors vous m'embouchez à quoi? Parce que je pensais franchement que du beurre, c'était un produit laitier.
Alors, ça vient du lait, c'est une transformation, mais en termes nutritionnels, c'est classé dans les matières grasses, car la composition est riche, très riche en graisse, en calcium et en protéines.
Okay.
Et les glaces et les crèmes dessert, qui elles aussi contiennent du lait, elles vont être, avec leur richesse en sucre et en graisse, sont classées dans la famille des produits sucrés. Et enfin, il y a les aliments qui, eux, ont un nom qui fait penser à du lait, mais qui ne sont pas du tout du lait,
ni
produits laitiers, Ça va être, les deux grands classiques très consommés aujourd'hui, c'est le lait de soja et le lait d'amande, qui ne sont en fait pas du lait, mais qui sont appelés comme ça.
Alors, du côté des propriétés nutritionnelles de ces produits laitiers ?
En tout premier lieu, ce qu'on sait, c'est que c'est des aliments qui sont riches en calcium et en vitamine D, qui sont essentiels dans la construction et le maintien de tout le tissu osseux. Mais cet apport en calcium, il va être aussi très important pour plein de processus dans notre organisme. Ça va être comme la contraction musculaire, ça va être le cas de la coagulation sanguine ou encore de la conduction de l'influx nerveux, donc ce qui est très important. Ces produits laitiers, ils contribuent aussi aux apports en iode, en phosphore, en vitamine B2, BA et en acides gras polyinsaturés, les fameux oméga-3. Ensuite, il y a différentes études qui ont montré qu'une consommation de produits laitiers qui respectent les recommandations, c'est ça qui est très important de dire, a des effets positifs sur ce qu'on va appeler le cardiométabolique, c'est-à-dire la capacité à ne pas développer d'événements cardiovasculaires ou de diabète de type 2. Et certaines études montrent aussi qu'il y a un effet positif sur les cancers colorectaux. Et enfin, ce qu'il faut dire aussi qui est important quand on parle des produits laitiers, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'études qui démontrent qu'il y a un lien entre produits laitiers et certaines maladies, comme la sclérose en plaques ou d'autres maladies, parce que ça a beaucoup circulé pendant très longtemps en disant la consommation de produits laitiers entraîne certaines maladies, mais quand on reste dans les recommandations, bien sûr si on va consommer 10 fois, 15 fois, 20 fois les recommandations, peut-être que des problèmes peuvent arriver, c'est sûrement sûr d'ailleurs, mais quand on reste dans les recommandations, aucune étude ne démontre d'effets négatifs des produits laitiers.
Alors par contre, en termes de recommandations, les dernières recommandations sur cette consommation de produits laitiers ?
La première chose déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on les rencontre très tôt dans la vie, les produits laitiers, puisque les nourrissons, la première recommandation, c'est pour toutes les mamans qui le peuvent, un allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Ça, c'est très important à rappeler tout le temps. Ensuite, il y a deux populations pour lesquelles les produits laitiers sont très importants, c'est les enfants et les adolescents et les personnes âgées. Pour les enfants et les adolescents, parce que c'est important pour la croissance. Et pour les personnes âgées, c'est très important pour prévenir l'ostéoporose, donc les problèmes osseux. Là, pour ces populations-là, on va recommander 3 à 4 portions de produits laitiers par jour. Maintenant, pour le reste de la population, on va recommander plutôt 2 portions de produits laitiers par jour. Alors, ce qui est un peu intéressant et ce qui intéresse les gens, c'est quoi une portion ? Une portion, ça va être un yaourt, par exemple. Ça va être un bol de petit déjeuner de lait, pas un immense bol ni une petite tasse, les tasses intermédiaires. Ça va être une portion, un petit morceau de fromage. Alors là, sur les fromages, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a 2 types de fromages. Il y a ceux à pâte molle qui vont être un peu moins gras, comme le camembert ou le brie, et puis ceux à pâte dure comme l'emmental ou le comté qui vont être plus gras, donc ceux-là il faut plus les limiter parce qu'ils sont beaucoup plus gras. Et il y a une autre catégorie de fromage auquel il faut faire attention, c'est la feta ou le roquefort qui sont très salés, donc pour une partie des personnes qui ont besoin de manger avec moins de sel ou faire plus attention, il faut éviter cela. Et enfin, la dernière chose, que c'est une question qui revient souvent quand on parle des produits laitiers, pour toutes les personnes qui présentent une intolérance au lactose, c'est possible d'en consommer, mais à ce moment-là il faut aller vers des yaourts ou des laits fermentés qui eux, par leur transformation, contiennent moins de lactose, ou, et si c'est des fromages à pâte pressée ferme, comme les tomes par exemple, qui eux en contiennent quasiment pas du tout.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et merci à l'équipe qui prépare cette émission, Ophélie Lassène, Juliette Brault, et qui la réalise, Steven Esli, Didier Chérouse. Demain, nous allons parler des hypochondriaques. Oui, comment prendre en charge cette angoisse répétée au sujet de l'état de santé. En période de crise sanitaire, c'est pas forcément évident. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.